Je vais maintenant donc vous présenter notre conférencier de ce soir, donc Jean-Louis Cohen. Jean-Louis Cohen est architecte et historien. Il est professeur des universités. Il est directeur de l'Institut français d'architecture et responsable du projet de l'architecture et du projet de la cité de l'architecture et du patrimoine qui ouvrira ses portes à Chaillot en 2005. Concernant son parcours, en 1973, il est architecte des PLG. En 1979, responsable de la section architecture pour l'exposition Paris-Moscou au Centre Georges Pompidou. En 1985, il est docteur en histoire de l'art. En 1988-1989, il est concepteur avec Bruno Fortier de l'exposition permanente Paris, la ville et ses projets au pavillon de l'Arsenal. De 1992 à aujourd'hui, il dirige de nombreux travaux de recherche, notamment sur l'architecture du XXe siècle en France, en Allemagne, en Italie, Russie et aux États-Unis, et sur la modernisation de la forme urbaine à Paris. Ses spécialités, il est spécialiste des questions d'urbanisme et d'architecture, et Jean-Louis Cohen a notamment travaillé sur les ceintures de Paris, mais également sur les architectes modernes. Ses publications, donc il a publié de nombreux articles dans des revues spécialisées. Il est également l'auteur de plusieurs ouvrages, dont « Des fortifs au périph' Paris, les seuils de la ville » avec Lortie Picard, pavillon de l'Arsenal en 1992, « Miles van der Rohe » chez Azan en 1994, « André Lursa, 1894-1970, l'autocritique d'un moderne » à l'IFA en 1995, « Scène de la vie future, l'architecture européenne et la tentation de l'Amérique, 1893-1960, chez Flammarion en 1995. Les années 30, l'architecture et les arts de l'espace entre industrie et nostalgie, aux éditions du patrimoine en 1997. Et enfin, Casablanca, mythe et figure d'une aventure urbaine, avec Monique Eleb, chez Azan, en 1998. Je vais donc maintenant céder la parole à Jean-Louis Cohen pour une cinquantaine de minutes, après quoi nous aurons un quart d'heure de questions-réponses avec le public. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, bonsoir. Donc ce soir, je vais devant vous revenir sur un sujet que j'avais abordé il y a pratiquement une douzaine d'années avec André Lortie. Nous avions alors réalisé une exposition au pavillon de l'Arsenal et un ouvrage qui était le fruit de recherches assez longues sur un anneau très particulier d'environ 35 km de longueur et 400 à 500 mètres d'épaisseur, un anneau dont l'existence est toujours attestée aujourd'hui, par exemple par cette photographie du satellite Spot de 1995. La présence de cet anneau, donc de cette sorte de vallée annulaire entre deux parois de bâtiments qui sépare Paris de sa proche banlieue, nous rappelle, et je commencerai par cette constatation, combien l'histoire de Paris et son histoire la plus récente est difficile à comprendre si l'on s'abstrait de la longue durée, si on n'en voit que les tranches chronologiques courtes. L'histoire de Paris est une histoire lente, c'est une histoire qui est faite de conflits entre décideurs, professionnels, hommes politiques, associations, partis, groupes sociaux. Et cette histoire se déploie sur des théâtres parfois extrêmement lourd, comme on dit, de la pelouse de l'hippodrome de Vincennes, qu'elle est collante. Et un de ces terrains, c'est bien sûr celui de cet anneau occupé pendant plusieurs décennies par les fortifications d'Adolphe Thiers. Donc, depuis cette date, on pourrait dire qu'un spectre, pour paraphraser Karl Marx dans le manifeste de 1848, qu'un spectre hante la métropole parisienne, et que c'est justement celui de l'enceinte de Thiers, construite entre 1840 et 1844, puis désaffectée et détruite à partir de 1919. Cette enceinte constitue une sorte de seuil annulaire entre Paris et la banlieue. Et bien qu'aujourd'hui les seuils tentent à se déplacer dans un espace de plus en plus dilaté, vers les aéroports, vers les gares de TGV, qui sont les nouvelles portes de Paris, voire les frontières de l'Europe de Schengen, les seuils de Paris coïncident encore aujourd'hui. Et là, j'entends de Paris la ville et pas la ville de 2 millions d'habitants et pas la métropole de 10 millions. Les seuils de Paris-ville coïncident encore aujourd'hui avec la ceinture des habitations de briques rouges, des anciens bastions et l'anneau du boulevard périphérique, bordé d'équipements publics et d'ensembles modernes. Transformé par ce boulevard ouvert entre 57 et 73, la ceinture de Paris constitue aujourd'hui une extraordinaire scène architecturale et un lieu assez étrange. J'en veux comme exemple cette image que vous voyez ici du boulevard périphérique à la hauteur de la porte Maillot, ce lieu, ce paysage très particulier, assez unique dans les grandes métropoles urbaines. Aujourd'hui, en Europe, aujourd'hui, ce rempart fait de voitures, fait d'ouvrages d'art, reste particulièrement solide sur le terrain, bien que sa couverture, dans certains endroits, et son franchissement partiel soient à l'ordre du jour de multiples manières. Donc, pourquoi cette ceinture et que signifie-t-elle ? Elle marque, je viens de le dire, un seuil de la ville au sens où, et offre ainsi ce que Walter Benjamin appelait dans son ouvrage, ses notes sur Paris, capitale du XIXe siècle, je le cite, « une expérience du phénomène de la limite ». Un seuil urbain, c'est une expérience du phénomène de la limite, ici limite morphologique et politique, aussi forte, et je cite à nouveau Benjamin, que peut l'être l'expérience des rêves. Pour comprendre donc la constitution de ce seuil annulaire que je montre une nouvelle fois, il faut évoquer l'histoire de la construction du rempart. Tous les projets évoqués, élaborés en vue de la désaffection de l'enceinte, et enfin les tentatives qui aboutissent au paysage que nous connaissons aujourd'hui. Ce que l'on peut dire d'emblée, c'est que cette ceinture aura été pendant toutes ces décennies un espèce d'incroyable cimetière de projets, cimetière de rêves, cimetière de projets, cimetière de tentatives politiques avortées. Alors, la ceinture trouve sa place dans le dispositif des enceintes de Paris, que l'on voit ici depuis l'enceinte de Charles V jusqu'à cette enceinte construite donc dans les années 1840. Paris se développe à l'intérieur, en poussant sur ses limites successives. La dernière enceinte qui précède l'enceinte de Thiers, donc l'enceinte réalisée en 1840, c'est cette enceinte des fermiers généraux créée dans les années 1780, ce fameux mur en Paris, et qui rendait, comme disait la comptine, Paris murmurant. Ce n'était pas un mur défensif, ce n'était pas un mur militaire, comme le sera l'enceinte de Thiers, c'était un mur d'octroi, c'était un mur fiscal. La désaffection de ce mur fiscal, lorsque la nouvelle enceinte est créée, c'est assez important, n'est pas simplement qu'un chantier linéaire pour abattre un ouvrage continu. La désaffection de l'enceinte des fermiers généraux, on voit ici en jaune l'intersection de cette enceinte avec toutes les voies parisiennes, de la même manière qu'on voit ici en bleu l'intersection de l'actuel espace situé à l'emplacement de l'enceinte et de sa zone sur laquelle je vais revenir. Ces deux systèmes annulaires emboîtés l'un dans l'autre, ici dessinés par le groupe Tomatos, un groupe de jeunes architectes qui a beaucoup travaillé sur ces terrains depuis quelques années. Donc ces deux dispositifs recyclant les terrains de l'enceinte nous montrent qu'une enceinte, en fait, ce n'est pas qu'un mur, c'est une épaisseur urbaine. C'est précisément un seuil au sens où l'entend Benjamin. Autour de l'enceinte des fermiers, j'y reviens, autour de l'enceinte des fermiers généraux, la destruction du mur va créer un tissu urbain particulier que l'on trouve aujourd'hui, pour l'essentiel, au droit du viaduc, du métro aérien. Il en ira de même avec la ceinture de Thiers lorsque l'enceinte sera détruite. Alors, origine de la ceinture, le débat qui se mène au début du XIXe siècle sur la défense à donner à la capitale française est un débat totalement déterminé, j'utiliserai à nouveau le terme hanté, par le souvenir, par le traumatisme de la défaite de Napoléon et de l'entrée dans Paris des Alliés le 31 mars 1814. Et sous la monarchie de Juillet, alors que la faiblesse relative de la France la rend vulnérable, plusieurs systèmes défensifs de conception opposée sont soumis à une chambre des députés qui est très partagée sur le sujet. Alors, c'est un débat très intéressant dans lequel beaucoup de figures de la politique française s'expriment et des hypothèses très contradictoires sont formulées. Des hypothèses comme celle que nous voyons ici pour un renforcement de l'enceinte des fermiers généraux, mais cette enceinte serait trop proche de Paris. Une hypothèse qui consisterait à créer un mur continu vers lequel la population pourrait se porter face à un ennemi venant de l'extérieur. Une autre hypothèse, c'est l'hypothèse d'une ceinture de fort détachée que la gauche parlementaire refuse, car elle voit dans l'idée d'une ceinture de fort une menace éventuelle contre une population parisienne révoltée. Alors, en définitive, le gouvernement d'Adolphe Thiers va mettre en place un système double. On le voit ici, une enceinte, un mur continu et des forts détachés. Les deux systèmes sont liés et vont, dans une certaine mesure, fonctionner de manière complémentaire pendant les épisodes qui vont suivre. J'insiste et je souligne le fait que cette enceinte est créée, non pas en rase campagne, mais dans des terrains relativement ruraux, et que la limite de Paris, la limite municipale de Paris, reste encore, dans cette phase, l'enceinte des fermiers généraux. Le nouveau mur va couper en deux, va intégrer certaines communes entièrement. Je prends l'exemple, des Batignolles ou de Grenelle. D'autres communes, Montrouge, Ivry, vont être coupées en deux. Alors, qu'est-ce que c'est que cet ouvrage assez extraordinaire et totalement obsolète ? On va le voir très rapidement sur un plan militaire. C'est un ouvrage obsolète aussi en termes de développement urbain, puisque c'est à cette période, dans les années 1840, que beaucoup de villes d'Europe commencent à démanteler leurs fortifications. Les grandes villes allemandes détruisent leurs fortifications et les remplacent par des systèmes de parcs très vite après l'achèvement de cette enceinte parisienne. De quoi s'agit-il ? Cette enceinte, et on voit ici une photo de l'enceinte dans son état, je dirais, militaire au moment de la guerre de 70. Elle associe, en partant de Paris et en allant vers la banlieue, vers l'extérieur, un boulevard militaire planté qui fait le tour de Paris, qui deviendra le boulevard des Maréchaux, à l'intérieur, une ligne de petite ceinture dont la fonction était une fonction militaire à l'origine. Il s'agissait de relier entre les bastions et de permettre l'unification du système défensif et le mouvement rapide des troupes. C'est dans cet esprit que la ceinture sera mise en état de guerre en 1870 contre les Prussiens. Le mur lui-même bastionné, qui est large d'à peu près 128, 130, peut-être 150 mètres, est accompagné, c'est très important, j'y reviens, d'une zone non édificandie, c'est-à-dire d'une zone sur laquelle il est interdit de construire des constructions permanentes, d'une profondeur de 250 mètres. Cette zone, dont on oubliera le qualificatif latin, qui restera pour tous les Parisiens la zone, le lieu où habitent les zoniers, le lieu où zonent les zonards, le lieu de toutes les ambiguïtés et de toutes les attentes aux portes de la grande ville. Tracée entre la limite de la ville, comme on vient de le voir, et la limite du département de la Seine, l'enceinte englobe des communes, en divise d'autres. Leurs territoires, ainsi circonscrits, seront annexés en janvier 1860. Ici, une image du mur d'enceinte dans le nord-est de Paris. Et vous voyez ce qu'il représente, c'est assez intéressant, ce mur d'enceinte traverse en rase campagne, un peu comme une ligne de chemin de fer, le paysage, qui est un paysage très peu construit du côté de Belleville et de Ménilmontant. Ici, on voit très bien donc, le mur et un des forts détachés, vous voyez ce système double qui résulte du chantier de 1840, mené entre 40 et 1844. Ici, l'image d'un terrain, d'un ensemble de terrains agricoles aux parcellaires en lanière expropriés pour faire la ceinture et sur lesquels le rempart va passer. Ici, une image du chantier qui est mené sous l'autorité du génie militaire et qui augmente considérablement pendant cette période la main-d'œuvre du bâtiment à Paris. Près de 15 000 ouvriers, peut-être 20 000 seront à l'œuvre sur ce chantier pendant 4 ans. C'est donc un événement considérable à l'échelle de Paris que cette opération. Événement considérable qui se termine, et ici l'image est sans doute un peu floue, par l'annexion en 1860 de tous les territoires compris à l'intérieur de l'enceinte. Cette image du Monde illustré nous montre Paris comme une espèce de femme aux amples jupes qui accueille tous les habitants de la périphérie. Alors cette enceinte, elle va être évidemment mise à l'épreuve pendant la guerre de 70. Ici une image des troupes pendant le siège de Paris à la porte de Flandre. Ici une image des combats sur le front ouest, vous voyez le bois de Boulogne et au fond le fort du Mont-Valérien. Cette enceinte va être mise en état de défense et va être ridiculisée par l'artillerie allemande, puisque l'artillerie allemande pourra, en restant hors de portée des forts détachés, arriver quand même à bombarder Paris au-dessus de ces deux systèmes. Donc, le caractère totalement obsolète du projet sur un plan technique va apparaître. Par ailleurs, et ce qui est intéressant, ceci dit, c'est que les deux systèmes vont fonctionner en 1870 et 71. Dans un premier temps, les Français retranchés face aux Prussiens. Dans un deuxième temps, la Commune retranchée face aux Versaillais. C'est grâce au mur que la Commune réussira à résister pendant quelques semaines aux Versaillais, dont voici l'assaut final en mai 1871. Alors après la guerre de 1870-71, les militaires insatiables demandent une nouvelle enceinte. La précédente était insuffisante. Voici un projet d'enceinte qui est discuté au milieu des années, vers 1872. Vous voyez Paris, l'enceinte initiale, l'effort détaché, l'idée de faire un grand mur, ce qui est un projet totalement d'un anachronisme absolument invraisemblable, qui sera finalement remplacé par une deuxième ceinture de forts. Les forts de Satory et autres seront créés et seront à nouveau mis en service au moment de la guerre de 14. Dix ans à peine. Après la guerre de 70, le député parisien Martin Nadaud considère, je cite, « que la grande ville étouffe dans sa camisole de force ». Et il s'adresse à ses collègues de la Chambre en déposant la première motion, il y en aura beaucoup, demandant la désaffection, je cite à nouveau, « d'un fossé devenu deux fois inutile depuis la construction d'une seconde ligne de défense ». Ici, on a une image de ce fossé qui est une vue autochrome, une de ces premières vues photographiques en couleur de la collection Albert Kahn. La motion de Nadaud est accompagnée par un projet de réaménagement de l'emprise des remparts développé sur toute la circonférence parisienne. Ce projet est mis au point en 1884 et il est étudié par l'administration d'Alphand. Alphand, qui avait travaillé, qui avait été le lieutenant d'Haussmann, reste en fonction, on ne l'oublie que trop, après, dans les débuts de la Troisième République. Il prendra sa retraite aux alentours de 1890. Donc que propose Alphand ? Eh bien, vous le voyez ici, une ceinture continue d'immeubles qui entourerait Paris et autour de ces immeubles, quelques jardins et un nouveau mur d'octroi, puisque ce mur d'octroi joue un rôle fondamental. Ce mur d'octroi, c'est une source de recettes fiscales anachroniques totalement. Elles aussi, avec le développement des échanges dans le pays, mais malgré tout, c'est une source de recettes à laquelle la ville est très attachée. Alors vous voyez ici la coupe sur ce projet d'Alphand, donc les terrains lotis à l'intérieur. Le grand fossé de l'enceinte que l'on voit ici, de l'enceinte de Thiers, est remplacé par un tout petit fossé rikiki et un nouveau mur est créé pour empêcher les fraudeurs de faire entrer du pinard en douce sans payer les taxes aux portes. Ce sera un sport parisien qui durera jusqu'à la suppression de l'octroi en 1942 et les musées de police et autres gardent des exemples extraordinaires d'objets inventés pour truander du type imperméable à double fond permettant de faire passer de l'alcool dans de grandes poches, réservoir de voitures aussi à double fond parce que les carburants humains et automobiles étaient très taxés. Donc beaucoup d'ingéniosité pour déjouer ce système archaïque qui durera très longtemps. La ceinture dans cette phase, les bastions, la ceinture dont on discute déjà le démantèlement, est un lieu extraordinairement important dans les représentations littéraires, artistiques, photographiques de Paris. Je pourrais vous en parler pendant des heures. Donc, d'une part, l'observation par les graveurs, par les peintres de certains lieux singuliers. Ici, une gravure nous montre la poterne des Peupliers, cet endroit très intéressant où la Bièvre, la rivière Bièvre, passe sous l'enceinte. Je vous renvoie au magnifique récit de Joris Karl Huysmans sur la Bièvre, qui présente cette poterne de manière très, 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 très étonnante. Ici, un peintre néerlandais du nom de Van Gogh se promène beaucoup sur l'enceinte autour des années 86-87. Ici, un dessin de Van Gogh de la porte de Clichy. Ici, un ensemble de dessins de Lucien Pissarro, 1886, qui nous montre que le spectre de la guerre s'éloignant, les fortifs deviennent un lieu de promenade extraordinairement populaire pour les Parisiens. Et si vous lisez la littérature réaliste de cette période, par exemple Germini Lacerteux, des frères Goncourt ou Zola, vous percevez combien les fortifs étaient, dans une ville très dense comme l'était Paris, un horizon de liberté, un lieu où non seulement on pouvait prendre l'air, mais un lieu aussi depuis lequel on pouvait voir la banlieue, un lieu qui offrait le spectacle des périphéries de la grande ville. Et donc c'était une sorte de compensation hebdomadaire le dimanche que d'aller flâner sur les fortifications, dans les fossés desquels les premiers terrains de football seront d'ailleurs créés. Donc très vite, la vocation de plein air de ce lieu apparaît et s'impose. C'est aussi un lieu où une population interlope commence à s'installer, les premières baraques apparaissent, et aussi les premiers apaches, ici la couverture d'un livre de Charles-Henri Hirsch, Le tigre et le coquelicot. Le tigre, c'est bien sûr l'apache, ou le bandit, et le coquelicot, c'est la jeune fille qui en tombe amoureux, et leurs aventures se développent, comme vous le voyez, sur les talus des fortifications. Les photographes observe aussi ces scènes, ici une photographie d'Adjet à la Porte Dauphine en 1912. Enfin, progressivement, la conscience apparaît, l'image est peut-être difficile à lire ici, que l'image apparaît d'une population qui s'implante, ces fameux zoniers qui commencent à s'implanter sur ces terrains qui étaient restés sur la zone des terrains privés. L'État n'avait pas exproprié la zone, c'était donc encore des terrains privés sur lesquels des propriétaires commencent, dans cette période, à louer différents groupes qui construisent leurs baraques. Les premières hypothèses de démantèlement de l'enceinte apparaissent donc avec Alphand en 1884, mais apparaissent aussi à l'initiative des architectes ou des ingénieurs ou des paysagistes qui s'efforcent d'inventer au tournant du siècle une nouvelle discipline, l'urbanisme. L'un d'eux est un architecte, vous voyez, de la ville de Paris, du nom d'Eugène Hénard, et qui invente en 1903 un nouveau type de boulevard implanté sur les fortifications côté Bois de Boulogne, au moment où on discute du démantèlement de l'enceinte spécifiquement côté Bois de Boulogne. Ce boulevard, on le voit peut-être pas extrêmement bien ici, je ne sais pas si j'ai pris une deuxième image, malheureusement non. Ce boulevard dit à Redan est un boulevard discontinu, c'est-à-dire un boulevard sur lequel des hôtels particuliers sont créés, non pas selon l'ordre continu des façades haussmanniennes, mais selon un système qui laisse passer le regard et l'aération. Donc c'est un des premiers projets innovants. Le Corbusier reprendra ce thème du Redan par la suite. Il est implanté, il est situé sur le terrain des fortifications. Hénard est aussi à l'origine d'un projet intéressant. Voici une carte de Paris dont, justement, le tracé des fortifications n'est plus visible. Pourquoi ? Parce que Hénard a l'idée d'une extension continue de Paris au-delà du mur qui aurait disparu par un tissu régulier de rues et de squares. Donc l'idée d'un Paris continu dans lequel il n'y aurait plus de distinction entre Paris et la banlieue, c'est une idée qui est discutée donc par lui autour de 1910. Cette attitude est caractéristique. Pourquoi ? Parce que cette désaffection de l'enceinte qui est d'abord envisagé, comme on le voyait avec les logements prévus par Alphand, pour régler des problèmes internes à Paris. Circulation, logement ou jardin devient un élément fondamental dans les stratégies d'extension de la capitale. Et ces réflexions apparaissent d'ailleurs au même moment dans la littérature. Dans « Paris à 5 heures du soir » de Jules Romain, un des volumes des « Hommes de bonne volonté », le Paris de 1908 est décrit comme, je cite, « serré dans son enceinte, ligoté dans le fouillis de la zone et bloqué dans sa banlieue ». Au même moment, les forces politiques les plus diverses s'emparent de la question. Albert Thomas, porte-parole du Parti socialiste, affirme que l'aménagement des espaces libres sur les fortifications, sur la zone, pardon, serait une œuvre socialiste. Maurice Albvax, grand sociologue et à l'époque aussi militant de la SFIO, affirme que la zone pourrait être un lieu formidable d'interaction des différentes classes sociales dans l'espace parisien. Ce qui se passe sur le terrain, c'est plus délicat. Les militaires défendent leur terrain et les zoniers sont parfois, comme ici en 1892, expulsés de leur baraque. Donc, en effet, les militaires acceptent mal ce que la politique de Thiers, qui voulait, je cite Adolphe Thiers, protéger la tête de la France. Cette image de la tête de la France, qui est, vous savez que capitale vient du latin caput, c'est la ville qui est la tête ou le chef du pays. L'idée que la tête de la France soit enserrée dans une couronne insalubre de lotissement sur la zone, soit comme garrotté dans cette couronne et dans la banlieue, est insupportable aux yeux de certains dirigeants politiques et des militaires. Et les militaires essayent de proposer leur méga enceinte. Voilà un projet de 1900 dans lequel les militaires disent « D'accord, on vous cède les bastions de l'enceinte de Thiers, mais vous nous refaites une nouvelle enceinte plus belle et plus grande à la hauteur des forts de banlieue. » Donc, vous voyez ce qu'aurait donné. À l'époque, toutes les villes allemandes ont démantelé leurs fortifications. Donc c'est vraiment ne pas être en retard seulement d'une seule guerre, comme d'habitude, mais être en retard de deux ou trois, hein, que de faire cette enceinte, qui est à mon avis d'ailleurs plus un chantage financier vis-à-vis du budget de la guerre. Nous sommes prêts à abandonner l'enceinte, mais faites-nous de très beaux cadeaux, construisez-nous des cuirassés ou je ne sais quoi. En tout cas, c'est un des projets les plus absurdes que l'enceinte ait jamais sécrété. Mais vous voyez qu'elle en sécrète beaucoup. Hein. Finalement, le Conseil supérieur de la guerre accepte de démanteler la partie ouest de l'enceinte. C'est ce qui explique que le projet de Hénard se fasse sur le bois de Boulogne. Finalement, le débat devient un débat vraiment très serré. Entre 1908 et 1911, à l'époque, s'affrontent deux schémas. Le schéma de Hénard, que l'on vient de voir, donc l'idée de casser la continuité de l'enceinte et de créer des grands parcs qui s'intercaleraient entre le parc Montsouris, les buts de Chaumont et la banlieue. Donc c'est le projet du musée social dessiné par Hénard et le projet du conseiller municipal Louis Dosset, qui, lui, consiste à faire une ceinture d'habitation et une ceinture de jardin. Voilà une illustration du projet d'Ausset. Paris est ici, on est à l'intérieur de Paris, vous voyez ces îlots. C'est en gros finalement ce qui va se réaliser plus tard, et une ceinture de parc. Une partie des propriétaires fonciers parisiens proteste contre ce projet, parce qu'il aboutirait, c'est déjà ce qui avait torpillé en partie le projet Alphan, parce qu'il aboutirait à mettre sur le marché une quantité trop grande de terrain à bâtir et donc dévaloriserait les propriétés existantes. Donc il y a des conflits, non seulement entre techniciens, entre forces politiques, entre civils et militaires, mais aussi entre différentes fractions de la propriété immobilière parisienne. L'intérêt de ce terrain, c'est celui précisément d'attirer les conflits. En 1913, un premier plan d'extension vraiment sérieux et fait pour Paris. Ce plan est élaboré par Louis Bonnier, architecte voyer, et Marcel Poète, qui est un des plus grands historiens de Paris, que beaucoup d'entre vous connaissent au travers de son ouvrage « Une vie de cité Paris ». C'est un projet dans lequel les deux commissaires imaginent la création de villes nouvelles à La Courneuve et à Rungis. Le département achètera des terrains qui serviront ici à un parc, ici à un marché. Et ils reprennent le projet de Dosset, c'est-à-dire l'idée d'un anneau continu de jardin. Les partisans du mouvement pour la cité jardin se battant et agissant contre l'idée d'un mur continu de maisons. Je cite ici Georges Benoît Lévy, qui est le principal animateur du mouvement pour la cité jardin, et qui dit, qui écrit en 1907, il faudrait empêcher que l'on construise ces abominables maisons à étages qui feraient une ceinture de pierre à la ville de Paris, alors qu'il lui faut une ceinture de fleurs. Les projets s'accumulent sur cette enceinte à l'initiative, encore une fois, de forces techniques très variables. Ici, c'est un dessin extraordinairement éloquent qui nous montre justement ce spectre, comme sur une radiographie, ce spectre en blanc de la ceinture séparant Paris de la banlieue. C'est un dessin de Jean-Claude Nicolas Forestier, paysagiste, conservateur des promenades de Paris, inventeur de la roseraie de Bagatelle, qui réfléchit à l'idée de système de parc à l'échelle de la métropole. Forestier dessine aussi un projet sur les fortifications à la hauteur de la Porte Maillot, qui est un projet, voici la Porte Maillot, l'actuelle Porte Maillot, et vous voyez ce qu'il décide, c'est une sorte d'avenue promenade, ici, avec quelques maisons, mais surtout une séquence de promenades, de pistes cyclables, d'allées cavalières. C'est la notion de parkway, d'avenue promenade à l'américaine, qui est ici proposée à Paris par Forestier. Le débat aboutit finalement, en 1911, à des conventions par lesquelles l'État accepte de vendre à la ville les terrains de l'enceinte, et des conventions sont préparées qui, ceci dit, n'entreront pas en activité avant le lendemain de la Première Guerre mondiale. Pendant la guerre, la situation est gelée, l'enceinte est à nouveau partiellement occupée par les militaires, mais surtout occupée par des jardinets. Elle contribue héroïquement au ravitaillement de Paris, et vous savez que la guerre de 14 marque le caractère totalement obsolète des nouveaux forts construits dans les années 1870, puisque la fameuse Grosse Bertha a une portée de 80 km, au moins, qui les dépasse largement. Alors, 1919, grande étape dans l'histoire de l'urbanisme parisien. Les conventions que j'ai évoquées tout à l'heure sont promulguées par une loi en avril 19, et cette fois-ci, un nouveau dispositif est mis en place qui va être réalisé. On voit ici la comparaison entre les deux systèmes. L'enceinte de Thiers avec le mur, le fossé, le glacis, la zone. Et le nouveau système, le boulevard est maintenu mais il est élargi, sur l'emprise des fortifications que la ville achète à l'État et lotit ou revend, sont construits des habitations à bon marché ou à moins bon marché, et la zone est laissée disponible pour la construction de jardins et d'espaces libres. Le mouvement en effet pour les jardins, pour les espaces libres, qui s'exprime par exemple dans le Congrès des sports en 1920, est très puissant dans la détermination du destin de cette enceinte. La démolition commence aussitôt et va se développé pendant quelques années, la muraille étant alors évoquée avec une certaine nostalgie par certains écrivains. Je ne résiste pas au plaisir de citer Céline, qui écrit en 1936, je cite, « Il ne reste plus rien de la muraille et du bastion. Des gros débris noirs crevassés, on les arrache du remblai mou comme des chicots. Tout y passera, la ville bouffe ses vieilles gencives. Bientôt, ça ne sera plus partout que des demi-gratte-ciel terre cuite. » Alors, les hypothèses abandonnées, c'est par exemple l'hypothèse de Jacques Grébert, un architecte français qui a travaillé aux États-Unis, dont le projet pour le concours de l'extension de Paris en 1919 imagine un système de canaux, un système de jardins, un parquet, un grand boulevard planté. Le boulevard militaire élargi par le projet d'aménagement n'a rien à voir avec ces hypothèses. Ce projet d'aménagement, on le voit ici, il est élaboré en 24 par Louis Bonnier, dont on a vu le plan d'extension de 1913. Bonnier est un architecte très important pour Paris. C'est lui qui a inventé le règlement d'urbanisme de 1902, qui a été en vigueur pendant presque 60 ans, et qui est le règlement qui, aujourd'hui, sans doute, a le plus façonné les voies de Paris après Haussmann. Bonnier est aussi l'auteur de la magnifique piscine de la Butte aux Cailles, ou des HBM de la rue de Ménilmontant, avec Forestier dont je viens de parler, il élabore un projet d'aménagement dont je vais parler. Ce projet d'aménagement qui définit l'occupation de tous les terrains ici de l'enceinte fortifiée, vous voyez la trace des bastions sur ces nouveaux îlots, la ligne sinueuse des bastions, ce projet qui prévoit également la création d'un anneau de jardin, va définir le destin de l'enceinte pendant des décennies, mais ne sera jamais totalement réalisé. Ici, nous voyons la situation sur le terrain dans les années de l'entre-deux-guerres. La ceinture de HBM, environ 40 000 HBM, sans doute 40 000 habitations au total, pas toutes des HBM, je vais y revenir, est réalisée. En revanche, ce que l'on voit bien ici, et vous voyez cette extraordinaire densité de la zone, c'est une image du nord de Paris, hein, dans le 18e. Donc vous voyez que cette zone, occupée à l'époque par environ 15 000 habitations et peut-être 50 000 personnes, le dénombrement est extrêmement difficile à faire, cette zone joue un rôle dans la vie politique parisienne. Les propriétaires, en général, votent à droite, mais pas tous. Les occupants, quand ils votent plutôt à gauche. Et donc chaque force politique a à cœur de défendre ses électeurs dans la zone. Et par ailleurs, ce terrain n'est pas un terrain sans valeur, et donc la ville qui peine à acheter à l'État les terrains du rempart, ici, ou pour construire des habitations, n'a absolument pas les moyens d'acheter la zone. Donc la situation va traîner, et ce qui sera réalisé, eh bien, c'est surtout la partie rempart du projet et pas du tout la partie zone, ou très peu. Alors, que se passe-t-il sur le terrain ? Quelques projets singuliers apparaissent, que je vais évoquer ici. qui donne une image idéale de ce qu'aurait pu être, de ce qu'aurait pu être l'aménagement de, ces, de cet espace s'il avait été fait selon le plan de 24. L'espace le plus idéal, en l'occurrence, c'est celui de la cité universitaire, qui est réalisé après la guerre grâce au legs Dutch de la Meurthe, donc grâce à une contribution privée. Ici, nous voyons une image du chantier de la cité universitaire dans les débuts, avec ici, en particulier, ce qui est aujourd'hui la fondation franco-britannique de Lucien Bechmann. Bechmann est un architecte qui connaît bien l'expérience des campus américains et qui s'en inspire. Il imagine notamment pour la cité universitaire, c'est un projet qui n'est pas réalisé, mais qui est assez sympathique, ce qu'il appelle un hameau-jardin pour étudiants. Donc la cité universitaire, c'est un des projets les plus révélateurs de cette image d'un paysage assez idyllique qui était pensé pour cette emprise. Sur le terrain, comment se passent les choses plus concrètement? Je crois que, et là, j'utilise un dessin que nous avions fait, André Lortie et moi, il y a un certain temps, qui j'espère est lisible, et qui nous montre comment se constitue le dispositif construit sur les anciens bastions. Une sorte de double dispositif de ségrégation sociale est en effet mis en place par la ville de Paris. Premier dispositif, à l'ouest, les logements seront vendus pour construire des logements de luxe. Il n'y a pas d'habitation à bon marché à l'ouest de la ceinture, et il n'y a pas de logements de luxe dans le 20e, c'est clair. Donc une double ségrégation, une ségrégation à l'échelle d'ensemble de Paris. Une ségrégation ensuite plus fine intervient sur chaque segment de l'enceinte. Et c'est ce qu'on voit sur cette image. Les terrains situés au droit des stations de métro ou des portes, donc bien desservis, sont vendus pour faire des ensembles de logements pour la classe moyenne. Les terrains les plus distants, les plus éloignés, sont utilisés pour faire des écoles ou des piscines, c'est-à-dire des équipements qui sont des équipements municipaux. Et donc, ce sont des terrains que la ville ne peut pas vendre puisqu'elle les utilise elle-même. Entre les deux, eh bien, il y aura une gradation de logements sociaux. Les HBM dits améliorés seront plus proches des portes. Les HBM normaux, donc pour une population plus pauvre, seront plus éloignés. Donc vous voyez que tout est déterminé dans ce dispositif par une certaine distance, par la distance vis-à-vis des dessertes, vis-à-vis des stations de métro ou d'autobus ou de tramway, et ainsi un dispositif doublement inégalitaire se met en place. Le résultat, c'est la construction d'un ensemble continu, d'un nouveau front continu de logements, en particulier à l'est de Paris. Vous avez ici une image assez éloquente de la zone à droite et de ce mur d'HBM à gauche. Dans son livre « Faubourg de Paris », l'écrivain Eugène Dabit, l'auteur de d'Hôtel du Nord, pardon, écrit en 1933 « Sur les terrains vagues de la butte Montmartre et des grandes carrières où j'allais jouer, s'élèvent des constructions rigides et désolantes comme des casernes, des fabriques, des banques, des garages. Le terrain vaut de l'or, les maisons se touchent, se soutiennent, font la haie, cachent le soleil. Au printemps, sur les boulevards, nul autre feuillage que celui des marronniers et des platanes qui enfoncent leurs racines entre les canalisations électriques et celles du gaz. » Donc David pleure ce paysage des fortifs, vu par Lucien Pissarro ou par Zola, de ces fortifs poumons de la ville. L'aménagement ici à la porte de Clignancourt, l'aménagement des fortifications donne naissance à de nouveaux opérateurs. La ville de Paris, par exemple ici à la porte d'Orléans, voici une photo panoramique de la porte d'Orléans, la ville de Paris crée un nouvel opérateur qui existe toujours, qui s'appelle la régie immobilière de la ville de Paris, pour associer le capital privé à l'opération. Des dizaines de milliers de logements sont construits par une autre société d'économie mixte qui s'appelle la SAGI et qui les confie tous à un seul architecte, dont on a oublié le nom, il s'appelle Écli, et c'est cet Écli, cet architecte, qui a sans doute construit le plus de logements à Paris au XXe siècle. C'est le numéro un absolument en termes de commandes, mais on voit son nom de temps en temps gravé sur ces ensembles. Je cite à nouveau, cette fois-ci, Blaise Sandrard, qui décrit les logements construits, peut-être pas ces logements chics construits mais plutôt les logements de la porte de Clignancourt, par exemple, qui décrit ces logements en disant « Peut-on imaginer, je cite Sandrard, quelque chose de plus désespérant que ces logements de deux pièces, trois pièces entassées les uns sur les autres jusqu'au septième étage à raison de deux, trois douzaines de portes par palier ? ces paquets de grands immeubles en redans construits avec un matériau préfabriqué qui ressemble à du carton-pâte ou à du papier mâché. J'entends bien du papier hygiénique mâché après usage. Ces îlots où plus rien n'est français, bon ça c'est un passage un peu plus douloureux, délicat, sauf la voix des bandes de gosses rivaux qui se chamaillent le soir au fond des cours, des petits bébés qui crient toute la nuit, faisant les dents, ayant les vers, et ce sont leurs pleurs inextinguibles qui percent cloisons et façades, et le matin, à l'heure de la radio, les ménagères qui s'agonisent de balcon à balcon en secouant leur literie, des mégères qui se crêpent le chignon au marché. Il y a encore le bruit des poubelles qui est bien de chez nous, sinon, écrit Sandra, on se croirait en Tchécoslovaquie tant tout cela est rationalisé d'une façon primaire. Donc, il y a une réaction populaire très littéraire et populaire, quand même assez violente, bien qu'évidemment, des gens arrivent à se loger dans ces ensembles, à laquelle participe Le Corbusier lorsqu'il dénonce, lui, les 35 km de honte. Mais ce qu'il trouve surtout honteux, quant à lui, c'est qu'on ne lui ait pas passé de commande, évidemment. Alors, entre les ensembles d'habitation et sur les terrains de la zone et parfois de l'enceinte sont aménagés un certain nombre de jardins, j'en évoque quelques-uns. Ici, cette photo assez sombre du square de la butte du Chapeau Rouge, construit, élaboré par Léon Azéma dans le 19e. Voici une photographie de ce square depuis sa partie basse. Ici, le square Kellermann, qui est aménagé par Jacques Grébber au moment de l'exposition de 1937. Donc il y a une série d'opérations qui sont intéressantes sur ces squares. Il y a aussi quelques opérations singulières. J'évoquais tout à l'heure la cité universitaire. On peut évoquer aussi le parc des expositions de la Porte de Versailles, qui est monté par une autre société d'économie de la ville de Paris. Ce qui est important ici, c'est la dimension expérimentale de cet espace qu'on a du mal à concevoir aujourd'hui. On y invente certaines architectures, je vais y revenir, on y invente aussi des techniques de gestion, on y invente des modalités de transformation et de modernisation de la ville. Un des points singuliers les plus intéressants en matière de projet, c'est ce qui se passe à l'ouest. Alors, deux exemples. En matière d'habitation, ici, nous voyons l'endroit où la ceinture s'infléchit à la hauteur de Boulogne-Billancourt. Ici sont créés des équipements sportifs, le Parc des Princes, le stade Jean-Bouin, la piscine Molitor. Ici, évidemment, pas de logements très sociaux, notamment dans la partie nord entre la ville et le bois de Boulogne. Des logements de très bonne qualité, construits par la Sagie et l'inévitable Écli. Vous voyez la qualité de ces terrasses en haut des immeubles à la Porte d'Auteuil. Ici, des jardins encore plus beaux à la hauteur de la Porte de la Muette. Ce sont des ensembles de logements magnifiques construits par Jean Walter, l'architecte de l'hôpital Beaujon. Un autre lieu singulier, et ici, enfin, nous voyons le paysage de la Porte Saint-Cloud où voisinent des immeubles de la RIVP, donc des immeubles, des HBM améliorés ou des immeubles pour la classe moyenne, des immeubles qui ont le même gabarit et qui sont à l'intérieur de Paris. On voit aussi ici un des rares exemples d'un programme monumental réalisé dans cette période, les deux colonnes du sculpteur Paul Landowski. À la Porte Maillot, alors un projet intéressant dans l'histoire de l'architecture, un projet emblématique dont que l'on a du mal à relier avec l'enceinte, c'est le projet de Le Corbusier pour un immeuble villa, projet de 1922, dans lequel Le Corbusier essaye d'insérer à l'intérieur d'un grand immeuble collectif des logements dotés chacun d'un jardin. Ce projet est initialement pensé par Le Corbusier pour la ceinture, parce que ce n'est que sur la ceinture, en 1922, que des terrains de 200 mètres de longueur par 50 de largeur sont disponibles. Le Corbusier rêvera aussi, pour l'exposition de 1937, de créer ce qu'il appelle un gratte-ciel cartésien sur le bastion Kellermann. Donc, l'actuel stade Charletti est ici, et la poterne des Peupliers à droite. Le projet de Le Corbusier est présenté de manière extraordinairement, fantaisiste exagéré, puisqu'il présente ce bâtiment comme étant la meilleure stratégie pour préserver le bastion sur lequel il est planté. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, il reste quelques bastions de l'enceinte, notamment le bastion de la Porte de Bercy, qui est le mieux conservé, et deux ou trois autres. Alors, un endroit singulier très intéressant, c'est la porte Maillot. Pourquoi ? Parce que c'est sur la porte Maillot que l'enceinte croise le grand axe qui relie Paris à l'ouest. On a coutume de parler d'un axe est-ouest de Paris. En fait, il ne se passe pas grand-chose à l'est, et cet axe serait plutôt, je dirais, un axe ouest-ouest de l'Étoile à la Défense, dont l'aménagement est étudié dans cette période. On voit ici les fortifications à la hauteur donc, de l'ouest parisien en démantèlement. On voit déjà ici l'arasement des fortifications donc, au début des années 20. Et ici, l'entrée des terrains du Luna Park, qui se trouve depuis le début du XXe siècle dans une partie de la zone, et sur lesquels, en 1930, un concours très important est organisé, pour lequel Le Corbusier imagine d'encadrer l'avenue de la Grande Armée par des gratte-ciel posés sur un échangeur autoroutier. C'est une des premières formulations de l'idée d'une autoroute périphérique de Paris raccordée aux voies existantes. Ici, un projet plus lyrique encore d'Auguste Perret pour une espèce de couronne de gratte-ciel qui encadrerait l'avenue de la Grande Armée et créerait donc une nouvelle porte de Paris. Une image, je pense, tout à fait... Alors, j'ai perdu mon image précédente. Non, une image importante à ce propos-là, pour en terminer sur ces projets de l'entre-deux-guerres, et celle-ci qui nous montre finalement le caractère extraordinairement instable et délicat de la situation. Les HBM sont construits, des groupes scolaires sont construits, mais la zone reste toujours extrêmement présente. Les lois qui sont alors adoptées pour l'expropriation de la zone, compte tenu des faibles ressources de la ville de Paris, imaginent que l'achèvement, que la fin de la libération de la zone interviendrait en 1965. Alors, la situation est donc totalement bloquée et va se débloquer avec la période de Vichy. Très rapidement, alors que toutes les libertés démocratiques sont suspendues, il n'y a plus de conseil municipal, il n'y a plus de conseil général de la Seine, il n'y a plus de parlement, eh bien Vichy met en œuvre une loi en novembre 40 sur les immeubles insalubres et les terrains de la zone. C'est la même législation qui porte sur les îlots de logement stigmatisé au nom de la tuberculose dans Paris et sur la zone, et c'est cette législation qui va permettre d'exproprier très sommairement et avec très peu d'indemnité les propriétaires et de vider les locataires de la zone. Alors, ceci est très important parce que l'expulsion des zoniers va ouvrir la voie, va permettre le dernier acte de l'opération qui va être l'aménagement de la zone. Cet aménagement de la zone, il commence à être imaginé lorsque, sous Vichy, les services de la préfecture élaborent un nouveau plan d'aménagement de Paris. Ce qu'il y a de nouveau dans ce plan, c'est ce que vous voyez autour de Paris, ici. C'est l'idée d'un boulevard que l'on commence à appeler périphérique, qui est à l'époque un boulevard planté, qui est un boulevard planté d'arbres, une espèce de route nationale plantée d'arbres, qui fait le tour de Paris et qui doit collecter déjà le tracé des autoroutes qui ont été dessinées dans le plan régional de 1934. L'idée de l'autoroute du Sud, construite dans les années 60, est déjà présente ici. Ce projet de 1943 est un projet intéressant parce qu'il débouche sur une nouvelle définition de la zone. Regardez cette image qui nous montre le sud de Paris, entre la porte de Châtillon et la porte de Vanves, les HBM qui ont été construits, les équipements sportifs qui ne sont pas construits mais qui sont toujours rêvés. L'idée d'étendre à la banlieue le système, ici Malakoff, le système d'aménagement, et de profiter de cette situation pour commencer ce que Vichy appelait, c'est un terme qui prend un sens particulier dans cette période, l'assainissement de Paris, cette idée se met en place en s'appuyant sur cette zone. Est alors abordée formulée l'idée d'une zone de transition entre Paris et la banlieue. La littérature ne manquant pas, les idéologues ne manquant pas de souligner combien il est scandaleux que la ville lumière soit toujours entourée par un anneau de pauvreté, par un anneau de misère, habité par des populations troubles. Vichy met aussi l'accent, et là c'est la seule partie du programme qui est réalisée partiellement, sur le sport. la politique du sport joue un grand rôle dans l'idée du redressement national de Vichy. Et certains ensembles sportifs, ici un ensemble réalisé boulevard Bessières, je crois, sont lancés dans cette phase. Hein. Oui, on se trouve boulevard Bessières ici, c'est un projet de 43. Ces ensembles sportifs sont lancés. Après la guerre, que se passe-t-il ? Eh bien, la situation va changer du tout au tout. L'État intervient massivement dans le domaine de l'habitation et des travaux publics, et un miracle est intervenu. La zone qui était occupée dans l'entre-deux-guerres est désormais pratiquement libre, ou en tout cas peut-être libérée rapidement. Du coup, vont converger vers cet anneau séparant Paris de la banlieue la politique du logement de la 4e République, cette politique massive de l'État, et la politique routière. Là, cette affiche qui fait de la propagande pour la loi Laffey, Laffey est un élu parisien qui sera d'ailleurs président du conseil municipal, cette loi Laffey et le projet, c'est une affiche de 1954, le projet de Laffey va permettre la création de logements et le passage de cette grande artère qu'est le boulevard périphérique. Ici, une coupure de journal de 1954 qui nous annonce une ville nouvelle autour de Paris et qui nous présente les différents secteurs d'aménagement qui vont être réalisés autour de cette ville. Donc la situation change et le paradoxe, c'est que c'est finalement le retard de la mise en œuvre du projet de l'entre-deux-guerres qui va permettre la création de ce boulevard périphérique, lui-même aussi obsolète du point de vue global de l'agglomération parisienne que l'étaient les fortifications en leur temps, obsolètes parce qu'il va jusqu'à la création des autoroutes de ceinture récentes attirer jusqu'à Paris le trafic interrégional de tout le nord de la France. Alors sur le terrain, que se passe-t-il ? Des secteurs d'études sont définis, que l'on voit de manière un peu floue sur cette image, comme des espèces de formations biologiques. Et voilà l'image du nouveau Paris, telle qu'elle apparaît sous le crayon de Raymond Lopez, qui est l'architecte qui travaille pour Laffey. Vous voyez cette idée d'un nouveau Paris. Ici la périphérie, ici le centre, dans lequel la plupart des immeubles du Paris populaire auraient été rasés, les immeubles durs, haussmanniens, tardifs, restants. Vous voyez, le café du coin a disparu, il est remplacé par une espèce de petite guinguette sous un, je ne la retrouve plus, sous un parasol en béton léger à la Niemeyer. Le titre de cette image, c'est « Vue d'avenir ». Ce que pourrait être Paris au voisinage de la rocade périphérique à l'endroit où celle-ci recueille une autoroute. Les autoroutes sont masculines à l'époque. Et quand le Petit Larousse publie veut illustrer l'article urbanisme, eh bien, c'est une image de Paris qu'il utilisera. Donc le caractère emblématique de cet aménagement apparaît. Alors, la réalisation du périphérique, on en voit ici un exemple sur ces terrains de la porte du sud de Paris que l'on voyait sur l'image précédente. Vous voyez donc la bordure, le front bâti des HBM. Ici, le système des espaces verts qui est finalement réalisé et le boulevard périphérique, désormais en tranchée, désormais autoroutier, qui occupe dans ce cas la limite du périmètre communal de Paris. Le boulevard périphérique est une grande opération qui est lancée en 1954, le premier tronçon étant ouvert en 1960, et ses 35 km étant totalement mis en service en 1973. C'est une emprise à comparer aux échelles dont je parlais auparavant, qui varie de 35 à 60 mètres, les deux chaussées à quatre voies occupant chacune 14 mètres de largeur. C'est donc une opération extrêmement ambitieuse qui renforce ce caractère de vallée annulaire des terrains de l'ancienne zone. Vous voyez, entre cette façade continue et une façade côté banlieue qui est désormais un mur continu d'immeubles de bureaux assez vilains dans l'ensemble, c'est aujourd'hui une vallée annulaire que représentent ces territoires. En voici une autre vue au droit de la porte d'Orléans. Et un dessin qui nous montre quel est le schéma théorique de la vallée construite entre deux séries d'immeubles de chaque côté. Alors dès que et je termine sur cette période de projet en évoquant ici Une des images les plus fortes de cette politique d'aménagement issue du plan Laffey, c'est un projet pour une zone qui va de la porte des Lilas à la porte de Pantin, et dans laquelle nous voyons à la fois les HBM construits dans l'entre-deux-guerres, le parc d'Azéma dont je parlais tout à l'heure, la butte du Chapeau Rouge, et puis ces grandes barres qui sont implantées. C'est comme si une ville nouvelle annulaire, avec tous les clichés des UP et des villes nouvelles, avait été créée à quelques centaines de mètres, presque, à quelques kilomètres du centre de Paris historique. Encore une fois, je reviens sur ce thème, c'est l'incapacité politique et financière de la ville de Paris dans l'entre-deux-guerres à réaliser alors les terrains de jeu qui n'auraient pas pu être transformés en autoroutes et en grands ensembles, qui finalement permet cette irruption dans la capitale d'une logique qui est une logique d'urbanisme de très grande banlieue. Donc un système à la fois anachronique et extraordinairement brutal, qui va être mis en œuvre grâce à une réglementation extrêmement astucieuse et un peu perverse, qui est la réglementation de la ceinture dite de la ceinture verte, qui sera en service jusqu'en 1985. Cette réglementation, elle permet quoi ? Elle va permettre à certains opérateurs de logements sociaux de densifier des espaces censés être des espaces verts, à la condition qu'ils recréent des vides dans Paris. Et c'est ce qui explique la création d'une série de jardins de qualité très très variable dans les grandes rénovations urbaines de Paris. Une liaison très forte apparaît dans cette phase, en effet, entre la ceinture vers laquelle on exporte des ensembles de logements et les quartiers dans lesquels on rase les habitations populaires pour y créer des grands ensembles très proches finalement de ceux-ci. Donc il y a une solidarité entre ces différentes parties de Paris dans cette période. Une image ici de cette politique d'aménagement, c'est une des rares compositions qui traverse le périphérique à la porte de Vincennes. L'architecte Bayot imagine un système assez pompier, assez symétrique qui traverse les deux côtés de la ville. Voilà enfin quelques images qui subsistent encore, quelques exemples qui subsistent encore de la poche de zonier qui perdureront jusqu'à l'achèvement du boulevard périphérique. Je me souviens en avoir connu pas mal du côté de la porte d'Ivry ou de la porte de Vitry à la fin des années 50. Ici, une image nous montre donc la logique de ce dispositif. C'est le passage dessiné avec une sorte de trait rouge de cette logique autoroutière qui a ses obligations en termes de rayons de giration, en termes de tracé, en termes de pente, et donc qui introduit une logique un peu comme le faisait le mur de Thiers. C'est pour ça que l'on peut parler d'une sorte de répétition, de compulsion, de répétition à propos de l'aménagement de Paris. C'est comme l'était l'enceinte de Thiers qui introduisait une logique de travaux publics, de lignes de chemin de fer, une logique routière de terrain dégagé qui est mise en place à proximité du centre de la capitale. Alors, les ouvrages sont considérables. Ici, l'échangeur de la porte de Bercy, qui est le plus grand d'Europe au moment de son achèvement, et dans lequel est comme enserré le bastion numéro 1 de l'enceinte qui a été préservé et qui est assez sympathique, mais totalement étouffé par les bretelles de ce dispositif autoroutier. Aujourd'hui, et je conclurai avec quelques considérations plus contemporaines, aujourd'hui, le périphérique existe, et dans une certaine mesure, malgré ses défauts, il a l'intérêt d'être, pour ceux en tout cas qui circulent dessus et qui regardent à l'extérieur, une scène métropolitaine assez extraordinaire. J'évoquerai à ce propos ce que dit de l'autoroute Kevin Lynch, qui est un très grand urbaniste américain mort depuis quelques années, mais qui a eu une contribution très importante à la réflexion sur le mouvement dans la ville. Lynch écrit dans son livre « La vue depuis la route ». Je cite « L'autoroute est ou pourrait être une œuvre d'art. La vue depuis la voie peut être un jeu dramatique d'espace et de mouvement, de lumière et de texture, embrassant une échelle nouvelle. Ces longues séquences pourraient rendre intelligibles nos grands territoires métropolitains. Le conducteur verrait comment la ville est organisée, ce qu'elle symbolise, comment les habitants l'utilisent, ça c'est sans doute une vue de l'esprit, et quel est son propre rapport avec elle. De notre point de vue, l'autoroute est la grande opportunité négligée dans le projet urbain. » Alors je ne plaiderai pas pour la préservation et la sanctification du périphérique, mais simplement pour que l'on n'imagine pas simplement que son destin est d'être enterré, que son destin est d'être effacé. Le périphérique crée aujourd'hui un spectre, comme l'avait compris Wim Wenders lorsqu'il avait fait un film intitulé Carnet de ville, où il rapprochait le périphérique parisien d'autoroutes infiniment plus destructrices à Tokyo. Aujourd'hui, le périphérique est un paysage sur lequel des architectes de très grand talent se sont exprimés. J'évoque ici l'hôpital Robert Debré de Pierre Riboulet, récemment disparu, qui est un bâtiment dont l'esthétique, dont la forme courbe est déterminée par la configuration du boulevard périphérique à son endroit. Ici, la maquette du projet réalisé d'Henri Gaudin pour le stade Charletti, très, très magnifique construction en tension et les bâtiments de bureaux assez élégants qui l'accompagnent. Ici, l'immeuble de Michel Cagan sur le quai d'Ivry, qui est un dont il est impossible de deviner la destination en le regardant, puisqu'il s'agit d'un garage de voitures poubelles, hein, assez magnifié par le traitement esthétique de l'édifice. Ici, le centre commercial Bercy 2 de Renzo Piano, qui est un bâtiment dont toute la géométrie est conditionnée par la configuration de la bretelle de l'échangeur. Donc il y a une architecture qui a utilisé, et je pourrais évoquer d'autres lieux, l'Institut national du judo, d'architecture studio, d'autres projets encore. Le périphérique est une sorte de paysage architectural continu, extrêmement intéressant. Un paysage dans lequel parfois certaines opérations essayent de résoudre les problèmes réels des habitants. Je pense à cet immeuble anti-bruit de Gérard Turnoer à la porte de Bagnolet, qui est un immeuble assez rébarbatif côté périphérique, mais assez habitable, du moins je l'imagine, à l'intérieur. Très vite, les projets, le périphérique s'est ceci dit montré inopérant, surtout quand les autres autoroutes de ceinture n'étaient pas réalisées. Ça, c'est le super périphérique de René Sargère étudié dans les années 60. Le périphérique a été aussi l'objet de certaines réflexion au moment de la politique des grands travaux de Mitterrand. Ici, un des projets, celui d'Alexandre Chemetov, auquel j'étais associé pour le parc de la Villette, dans lequel l'idée de faire passer le périphérique dans des jardins à l'échelle de la perception qu'il suppose avait été émise. Mais je reviens et je termine avec les considérations actuelles. Aujourd'hui, c'est à l'échelle de la métropole que le destin de cet anneau est posé. Cet anneau donc épais de 400 mètres, de 4 à 500 mètres, qui intercepte beaucoup des voies importantes de la région parisienne, va-t-il devenir un territoire replié sur lui-même, rendu confortable, rendu praticable, ou va-t-il être un lieu d'articulation de Paris et de la banlieue, comme l'ont proposé depuis longtemps l'Atelier parisien d'urbanisme et l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région. Aujourd'hui, la situation politique nouvelle créée par les élections municipales 2001 à Paris a changé les choses. Pour la première fois, Paris travaille avec la banlieue, essaye de, non pas d'oublier cette vallée annulaire que l'on voit en blanc sur cette image des densités parisiennes, mais essaye de trouver cet anneau dont on voit la place ici à l'intérieur du système des espaces verts de la région. Aujourd'hui, ce qui est à l'ordre du jour, c'est le rapprochement de Paris et de certains, que l'on voit ici, Paris et de certains territoires de la banlieue où se développent des projets, la plaine Saint-Denis, ou l'Est parisien, ou le Sud. C'est la création de systèmes urbains nouveaux dans lesquels, évidemment, la matière bâtie sur les bastions et sur la zone serait préservée, aménagée, une ceinture sur laquelle s'exercerait sans doute moins de pression et qui trouverait sa place dans une négociation entre collectivités locales abandonnant leur égoïsme. Donc tout ce que l'on peut souhaiter, ça n'est pas que cette photo spot sur laquelle je reviens pour conclure nous montre à l'avenir une ville continue. Cette césure existe, elle a des qualités paysagères. Elle a en tout cas une histoire extrêmement complexe, extrêmement édifiante, si je puis dire. Elle est aujourd'hui, et pas simplement à cause du tramway sur le boulevard des Maréchaux, qui peut changer la destinée de cet anneau et en faire un lieu de transport plus collectif. Cet anneau double, au-delà donc de son histoire d'un siècle et demi, reste, à mon sens, un des terrains d'aventure urbaine les plus intéressants de la région parisienne et peut-être de l'Europe. Merci.
Vous avez terminé votre intervention par l'évocation du tramway. Et je ne peux m'empêcher de faire un rapprochement avec les types d'habitations qui ont été décidées à l'ouest de Paris et ceux qui ont été ensuite décidés au sud et à l'est. Et le choix qui a été pris récemment de construire ce tramway sur la partie sud et est et non pas à l'ouest.
Alors,
qu'est-ce que vous en pensez ?
Non, mais je crois que cette dissymétrie est-ouest de Paris, hein, qui est fréquente dans beaucoup de capitales, on se pose d'ailleurs la question, franchement, de savoir pourquoi, comment opère cette dissymétrie à Londres ou à Berlin. C'est en général l'ouest qui est la zone de résidence de la classe des classes aisées, et l'est qui est, pour des raisons, qui est la zone de résidence des classes ouvrières et des salariés. Pourquoi ? En général, parce que les vents dominants en Europe vont de l'ouest vers l'est, et donc que les conditions atmosphériques, environnementales sont meilleures à l'ouest. Mais c'est pas toujours le cas. Ce que je veux dire, c'est que déjà le périphérique lui-même, le périphérique est déjà asymétrique. Je ne l'ai pas assez souligné, mais le périphérique passe en tranchée sous le bois de Boulogne, à une bonne distance des logements construits dans l'entre-deux-guerres sur la ceinture. Le périphérique est quand même nettement plus proche des quartiers d'habitation dans d'autres parties de la ville. Mais je voudrais quand même souligner que l'étude du tramway sur le boulevard des Maréchaux est une étude qui a commencé à la fin des années 80 et que le chantier qui est aujourd'hui lancé par l'équipe municipale de Delanoë est un chantier qui était préparé par l'équipe Tibéri. Donc je crois que c'est à la municipalité précédente, et aujourd'hui le débat va tout d'un coup prendre une tournure particulière dans les discussions entre la droite parisienne, la droite régionale et la gauche, mais il est clair que le projet qu'exécute Delanoë aujourd'hui est un projet dont il a hérité.
Serait-il possible de dire un mot sur la route des forts, dite route stratégique? Était-elle vraiment stratégique? Fort de Vore, fort du Kremlin-Bicêtre, de Montrouge, etc.
Alors là, on revient à des figures fondamentales de l'art de la guerre, hein, de la guerre de position. La guerre de position, c'est un art difficile, ça n'est pas une science exacte. La stratégie, ou plutôt la tactique de l'assaillant, c'est d'essayer de masser ses forces pour casser une enceinte, hein, pour faire une percée. La tactique du défenseur, c'est d'être capable de répondre rapidement, de mobiliser ses forces et de venir au secours d'une position assiégée. Donc cette route, ce type de voie qu'on appelle des voies de circonvallation dans le langage des militaires, ont toujours existé dans les systèmes défensifs. Et dans le système parisien de l'enceinte et des forts détachés, je répète, il y avait le boulevard militaire, on l'appelait le boulevard militaire, avant qu'on l'appelle le boulevard des Maréchaux. Ce boulevard militaire reliait les bastions et était jalonné de postes casernes dans lesquels étaient stationnées des forces. Il y avait la petite ceinture qui a été mise en état de, je le répète, qui a été militarisée en 70, et il y avait ces voies entre les forts, qui ont été effectivement utilisées pendant la guerre de 70. Il faut lire les journaux de campagne des différents écrivains qui étaient sur le front à ce moment-là et qui l'ont raconté. Cette route des forts, ensuite, elle est devenue très, très rapidement, dans la période des projets de réforme que j'évoquais, les projets de Forestier ou Hénard, elle est devenue évidemment la base de projets de parkways, de projets de promenades reliant les forts désaffectés. Et ça, dès 1912. Il y a les premiers projets de réaménagement de cette route à l'époque. Ces projets qui seront plus tard repris, par exemple, par la mission banlieue 89 de Roland Castro dans les années 80. Donc c'est une longue histoire à la fois pour son volet militaire et pour son volet civil, pour ce qui est de son usage concret pendant le seul épisode militaire important qui est la guerre franco-prussienne. Eh bien, je vous renvoie à la littérature sur la question.
Oui, je voudrais poser la question. Il est question de couvrir le périphérique de la porte de Bagnolet à la porte des Lilas. Qu'est-ce que vous en pensez de ce projet et si vous y êtes vous-même, si vous participez.
Ah non, je ne suis pas absolument pas associé à tout cela. J'ai une position, la position confortable de l'historien et du critique. Mais ce que je peux dire à propos de ces problèmes de grande voirie urbaine, c'est que ce sont des problèmes extrêmement complexes qui posent la question, je dirais, de ce qu'est l'espace socialisé d'une grande métropole. Faut-il privilégier le point de vue de ceux qui roulent sur la voie et qui sont nombreux, ou le point de vue de ceux qui sont victimes des vibrations, du bruit, de la pollution de la voie? Comment articuler les deux? C'est une question qu'on ne peut pas trancher de manière absolument définitive. J'évoquais tout à l'heure le point de vue de Lynch, qui n'est pas un point de vue d'esthète. Je dirais que beaucoup de Parisiens, qui par ailleurs ont des doubles vitrages parce qu'ils sont sur le bord d'une voie bruyante, mais parce qu'ils ont envie, pour d'autres raisons, d'habiter dans un quartier, sont aussi très contents de voir du paysage de certaines grandes voies parisiennes et ne pourraient pas imaginer qu'on mette des murs anti-bruit partout. Donc les questions sont très différentes et doivent être discutées de manière spécifique. Quand le périphérique est en tranchée et que la vue depuis le périphérique n'a pas d'intérêt particulier, évidemment, la couverture n'a rien de scandaleux. En revanche, essayer d'effacer, aller très loin dans l'effacement du périphérique comme expérience collective à l'ère de la mobilité, ça me semble aller sans doute trop loin. Mais je n'aurais pas l'outrecuidance de vouloir clore le débat tout seul.
En 1900, Paris organisait les Jeux Olympiques. Le parcours empruntait les fortifications. Qu'est-ce qu'il en reste et qu'est-ce qu'on peut visiter ?
Alors, j'avoue que je suis incapable de répondre à cette question. Donc, des éventuels vestiges des Jeux de 1900, si j'en crois mes souvenirs photographiques, non pas de l'époque, mais des images que j'ai pu voir de ces Jeux, c'était quand même un événement organisé de manière, comme on voit les Tours de France de l'époque, organisé de manière assez foraine. Donc je pense que les aménagements qui ont été réalisés sur les fossés, hein, ça a été où est-ce que ça se passait tout ça? Où est-ce que se passaient les activités sportives? Non pas sur les bastions, rappelez-vous de cette image. Les bastions, c'était des murs, un peu plantés, mais c'était des murs zigzagants. La zone, elle était occupée. Donc où est-ce que ça se passait tout ça? Ça se passait dans le fossé, qui était un fossé continu. Or ce fossé, il a été comblé. Il existe très partiellement, même pas, il a été aussi, peut-être avec le bastion numéro 1 ou avec les deux bastions qui subsistent dans le 17e. Donc, à mon avis, je ne veux pas paraître pessimiste, mais j'ai le sentiment qu'il ne reste rien de tout cela. Il faudrait sans doute aller regarder les archives, les photographies de l'événement pour essayer de voir si des traces fortes pourraient en être trouvées. Je suis sceptique.
Pardon, est-ce que l'expérience actuelle du passage de la A86 en tunnel entre Rueil-Malmaison et Vélizy pourrait permettre de penser que l'on pourrait un jour traverser Paris de la porte de la Chapelle à la porte d'Orléans en souterrain?
Alors, il y a beaucoup de projets sur ce thème, on en parle depuis les années 30. Je reviens, je boucle mon propos initial sur la longue durée. L'idée de traverser le sous-sol parisien en voiture, c'est une idée qui date des années 30. Il y avait à l'époque un groupe d'études de l'urbanisme souterrain qui s'appelait le GECUS, animé par un architecte qui s'appelait Édouard Utudjian, qui a fait des projets pour zébrer le sous-sol de Paris de tunnels à voiture dans tous les sens. Bon, donc on en parle depuis longtemps. C'est techniquement possible, il suffit de mettre en œuvre des tunneliers dans les profondeurs. C'est extraordinairement coûteux. Et donc jusqu'à présent, ces hypothèses sont des hypothèses à péage. On les a étudiées, par exemple, à un certain moment, l'hypothèse d'un doublage souterrain du boulevard périphérique a été évoquée. L'hypothèse d'un doublage souterrain de l'autoroute A1 pour aller à Roissy. Donc tout ça peut être imaginé. C'est des entreprises économiques absolument démesurées et qui seraient d'ailleurs totalement illégitimes de financer avec l'argent de la République. Et que donc qu'elles soient payées par ceux qui ne les utilisent pas. Ce que je peux dire simplement pour terminer, c'est que sans doute, à terme, le renforcement de certains transports collectifs, le bouclage des voies de rocade autour de Paris, peut amener à une diminution de la pression sur le boulevard périphérique. Donc je n'imagine pas qu'il soit transformé comme certaines autoroutes désormais inutiles en lieu de promenade, mais on peut quand même penser que son intensité actuelle est une sorte de pic dans la prospective que l'on peut se plaire à imaginer pour la ceinture de Paris.
Jean-Luc Cohen, merci beaucoup.